Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, deuxième édition après cette première soirée de la saison nouvelle en Ligue des Champions et avec déjà le PSG qui a bien joué et qui a même gagné.
On est content. Je pense que on aurait pu se mettre à l'abri et pousser un peu plus en deuxième mi-temps, même en fin de première. Je pense que voilà, on aurait pu faire un peu plus, mais voilà, on a fait l'essentiel. Je pense qu'on a réalisé quand même une bonne partie et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile.
Et oui, première victoire de ce Paris Saint-Germain dans son Parc des Princes. Des Parisiens donc qui l'emportent 2-1 sur la Juventus. Le trio offensif a été très en vue en première mi-temps, on va en parler. Il s'est un peu essoufflé en deuxième, mais c'est surtout la vieille dame qui, elle, nous est apparue très essoufflée. Le tenant du titre, le Real Madrid, commence bien. Une facile victoire en Écosse contre le Celtic Glasgow. Défaite un peu plus inquiétante, par contre, pour les Blues au Dynamo Zagreb, malgré Aubameyang, Sterling et Fofana. Tour d'horizon des résultats du soir, d'ici peu, avec nos invités du soir. Et puis un coup d'œil sur la soirée de mercredi avec l'OM qui n'a pas joué donc ce soir mais attend son heure du côté de Londres avant de revenir à la compétition contre Tottenham ce mercredi soir. Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial, est déjà sur place. Mais ce soir, avec nous dans ce studio, il y a Nabil Djellit et Patrick Juillard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous.
Merci de veiller avec nous et d'avoir assisté à tous ces matchs ensemble. Et puis on va rejoindre aussi au Parc des Princes, Cédric de Oliveira, que vous avez pu suivre dans la soirée spéciale. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Mbappé a décroché maintenant. Il est côté gauche. C'est impressionnant là ce que fait. Attention parce que la frappe de Mbappé, ouverture du score. Magnifique, le premier enchaînement de la rencontre. Et voilà Neymar, la petite touche pour Mbappé, la reprise de volée de l'extérieur du pied. Elle a été touchée par Perrine, mais elle a fini dans le but. Et c'est Kylian Mbappé qui vient ouvrir le score. La soirée est lancée. Paris mène 1-0 face à la Juve. Verratti qui va donner peut-être à Vitinha. Non, on va s'appuyer sur Mbappé. Attention dans la surface, pas sur le. Oh, le doublé de Kylian Mbappé. Mais quel enchaînement encore une fois. Il est au-dessus, Kylian Mbappé, le numéro 7 parisien. Le doublé. 2-0, c'est la réduction du score, un point nommé, la réduction du score de la Juventus Turin, et ça fait 2-1 pour la Juve.
Alors, c'est McKennie.
Et les supporters, hein, ils ont donné de la voix, vous les entendez derrière moi, donné de la voix en fin de partie, chantant pour leur équipe, chantant à sa gloire et surtout chantant la victoire sur la Juventus de Turin. Les Parisiens qui ont attaqué la partie tout feu, tout flamme. Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Nabil Djellit, on peut dire que quand même, on les attendait. Et Neymar, Mbappé, qui sont très en forme depuis le début de saison, se sont particulièrement distingués ce soir.
Oui, il y a une connexion évidente entre les deux hommes, entre le Brésilien et l'international français face
la
à une
première passe décisive voilà, est très belle. Hein.
Face à une Juve peut-être un peu amorphe et apathique en première mi-temps, ils se sont trouvés sur une action de classe mondiale, notamment avec cette louche de Neymar pour Mbappé qui est parti dans la profondeur. Et le but n'était pas fait parce qu'il fallait quand même bien ajuster le gardien d'une reprise de volée absolument parfaite de la part de l'international français. Et puis le Paris Saint-Germain a enfoncé le clou parce que ça, ils allaient trop vite, ils étaient trop forts pour cette équipe de la Juve, avec une autre connexion qui marche bien également, puisqu'ils sont amis dans la vie, on le sait tous maintenant. Hakimi pour Mbappé, Mbappé clinique dans la surface, qui soigne ses statistiques sur cette première mi-temps, où très sincèrement, il n'y a pas eu photo, il y a même eu une classe d'écart entre les deux équipes.
Patrick Juillard, vous aussi, vous diriez que ce duo Mbappé-Neymar fonctionne et pour le bien de l'équipe.
Oui, il fonctionne parce que sur ce match, ils ont réussi à lancer Mbappé, parce que Mbappé est redoutable quand il peut prendre de la vitesse. Et ce n'est pas toujours le cas contre les blocs bas, mais là, la Juve avait un positionnement un peu flottant. Je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus recroquevillés en double rideau qu'ils ne l'ont été. Ils ont essayé de jouer, ils ont laissé des espaces et le PSG s'est engouffré dedans. La louche de Neymar, c'est quand même pour moi le geste du match, au-delà du doublé de Mbappé. Ça m'a rappelé celle de Poborski contre le Portugal à l'Euro 96. Ça date, mais il y avait un peu de ça là-dedans.
Ça date pas en Égypte, hein. C'est toujours important aussi, à
rappeler. Beaucoup de décontraction, mais à la fois de précision chez Neymar. Donc il retrouve du relâchement et il en a besoin pour briller. Donc ça, c'est très important. Et Mbappé, son bilan aurait pu être sans doute un peu meilleur s'il n'avait pas oublié Neymar ensuite. Mais c'est le sujet.
Cédric De Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Annie.
Alors Cédric, il y a encore de la musique autour de vous.
Ah, il y a toujours de la musique au Parc des Princes. Hein. Il y a encore les supporters de la Juventus Turin qui attendent de pouvoir être exfiltrés de ce Parc des Princes après cette défaite de la Juve donc face au PSG. Mm-hmm.
Cédric, alors on a parlé de cette première mi-temps où tout s'est plutôt bien passé avec un score de 2-0 à la fin et ce tandem Mbappé-Neymar. Peut-être qu'il y a eu quand même un tournant dans ce match et c'est justement ce à quoi faisait allusion Patrick Juillard, c'est quand les deux hommes ne se trouvent pas dans le bon tempo, ratent finalement la balle du 3-1 et là le match
à l'époque.
Du 3-0 pardon, et le match devient un petit peu autre.
Oui, c'est là, c'est vrai que la responsabilité, alors autant Kylian Mbappé a été magnifique sur ses deux buts hallucinants, même de précision, sur deux gestes, deux reprises de volée, hein, parce que la deuxième, c'est aussi une reprise de volée sur un service d'Hakimi. Derrière, Mbappé, effectivement, en début de seconde période, il a préféré la solution individuelle. Je pense qu'il rêvait de se tripler pour l'ouverture en Ligue des Champions, alors qu'il y avait Neymar absolument seul au point de pénalty, ça aurait pu faire 3-0. Et là, face à une Juve qui vraiment n'a pas été très menaçante non plus, à part sur des erreurs du PSG, ça aurait largement suffi à, en tout cas, à s'éviter cette deuxième période un petit peu plus compliquée où on a vu un PSG brouillon et qui a eu quelques carences défensives, notamment Sergio Ramos, Hakimi dans les duels et ce but de McKenny, donc cette réduction du score. Et le PSG aurait pu avoir une partie un peu plus facile, surtout en deuxième période.
Oui, on a eu l'impression même, Nabil, alors je ne dis pas de revenir dans les temps anciens, mais en tout cas, il y a eu un moment quand même, un peu de doute, où on s'est dit que même la Juve était agressive, avec les changements aussi qu'avait effectué Allegri, et qu'elle pouvait presque obtenir l'égalisation.
Oui, on avait l'impression que effectivement, le Paris Saint-Germain devait être de plus en plus fébrile parce que justement, il y avait certainement cette action qui leur trottait dans la tête. Le match était à leur portée, ils avaient une vraie maîtrise, ils avaient une vraie emprise et jamais, au grand jamais, on aurait pu s'imaginer qu'à la mi-temps, la Juventus se serait retrouvée en position de pouvoir revenir dans ce match-là. Et c'est le Paris Saint-Germain qui a donné cette opportunité-là en validant pas ses temps forts et notamment par cette action où Kylian Mbappé a oublié Neymar, et puis la Juve a repris de la confiance, les changements apportés, ils ont un peu densifié le milieu, ils ont plus utilisé les côtés, il y a eu davantage de centres, et puis la fébrilité, elle est aussi, et je suis désolé de le dire, elle est aussi transmise par ce gardien Donnarumma. Autant en première mi-temps, il est très bon sur une parade, autant on sent qu'il perd un petit peu le filet, notamment sur le but de McKenny, et autant ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est un peu contagieux à ce moment-là chez les joueurs du Paris Saint-Germain, parce qu'on se dit il va y avoir une dinguerie.
Cédric, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur Donnarumma ?
Je le trouve un peu sévère parce que c'est quand même lui là, il a quand même sorti 2-3 arrêts assez déterminants, notamment sur la tête de Milik en première période. Il y a eu la tête des croisés aussi en seconde. J'ai vu des matchs où Donnarumma était plus fébrile et moins décisif pour le Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il a quand même. C'est aussi grâce à lui que le PSG s'impose 2-1 ce soir.
Patrick Juillard en même temps.
Moi, je serais un partout balle au centre entre les deux parce que effectivement, on peut pas lui enlever ses parades réflexes, c'est vrai. Et ça, il est là et il a le mérite de faire les gestes justes parce qu'en plus, il boxe bien les ballons, il les écarte de l'axe à chaque fois. Donc c'est bien joué techniquement, mais sur le but, il prend pas de décision claire. il doit soit faire confiance à ses défenseurs, soit y aller franchement et faire la loi dans ses 5-50. Et il fait ni l'un ni l'autre. Et moi, il m'a rappelé un gardien que je suis attentivement depuis son arrivée en France. C'est Kasper Schmeichel qui fait erreur sur erreur de ce type-là avec le GC Nice depuis un mois. Et là, on a vu Donnarumma faire un peu pareil. C'est-à-dire, à force de pas décider, il prend une décision néfaste, c'est-à-dire il décide de ne pas décider. C'est le pire pour un gardien de but.
Non mais effectivement, il peut être exceptionnel, mais en même temps, s'il est recruté par le Paris Saint-Germain, c'est un joueur libre qui est champion d'Europe avec l'Italie. Bon, on s'attend un minimum quand même à ce qu'il soit parfois spectaculaire ou décisif. Mais sur la deuxième mi-temps, il relance en partie la Juve, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, c'est comme
normal.
Ça. C'est cruel pour les gardiens de but. Parfois, on va plus retenir finalement, entre guillemets, des approximations. Erreur. Que finalement des parades décisives. Mais c'est leur job et ils le savent parfaitement. Et je rappelle quand même que Navas est toujours là et que ce débat-là du match entre Navas et Donnarumma, il peut ressurgir en cours de saison si Donnarumma ne sécurise pas à 100% ses interventions avec le Paris Saint-Germain.
Après, c'est pas normal que Nuno Mendes et Kimpembe se fassent avoir sur le duel par McKenny, qui est pas non plus un monstre physique et qui leur prend pas une tête. Donc je dirais que la responsabilité, elle est partagée sur ce but.
En tout cas, Kylian Mbappé a été interrogé à l'issue du match et Kylian Mbappé s'est expliqué notamment sur le rôle que l'entraîneur lui avait assigné. Écoutons-le.
J'ai un nouveau rôle dans cette équipe. Le coach il veut vraiment que je sois à la fois un point d'appui, que je serve de profondeur et que je puisse venir jouer, que je sois le lien entre Léo et Ney. Donc j'essaie de m'adapter du mieux que je peux à ce nouveau rôle et essayer d'être toujours décisif.
Merci beaucoup Kylian.
Merci. Un nouveau rôle.
Et quelle est la différence avec son rôle précédent? En fait, c'est pas ce qu'il faisait déjà. Dans les faits, prendre la profondeur, parfois jouer en remise, je comprends pas en fait.
La vraie différence pour moi, c'est que les deux autres existent à nouveau. C'est-à-dire que Pochettino pouvait peut-être lui demander d'aller jouer avec Neymar et Messi, mais l'an dernier, Neymar et Messi étaient plus ou moins éteints,
un peu fantomatique,
voire carrément absents pour Neymar sur certains matchs, puisqu'il était blessé. En revanche, là, les deux ont repris du poil de la bête. C'est une vraie résurrection pour Messi, un retour à sa meilleure forme physique pour Neymar. Donc forcément, ça aide Mbappé à être... Enfin, je veux dire, il bénéficie de ça lui aussi. Et comme il n'est pas idiot, il a compris que plutôt que de bouder et d'en prendre ombrage, il pouvait en tirer avantage collectivement. Donc il le fait très bien. Et le fait d'aller aussi au cœur du jeu, ça lui permet de partir de plus loin. Il n'est jamais aussi redoutable que quand il peut partir de loin et accélérer et, entre guillemets, semer ses défenseurs.
Après, la mission, elle est réussie pour lui quand même ce soir en termes de stats en Ligue des Champions.
Carrément.
C'est un doublé. Bon, on aurait parlé de son action individuelle ou égoïste si le Paris Saint-Germain avait été repris par la Juve. Ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est un garçon qui est assez intelligent. Pour savoir que la prochaine fois, il faudra qu'il la glisse. Quoi.
Bien sûr. Cédric De Oliveira, vous avez vu, vous, un nouveau rôle de la part de Mbappé?
Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Patrick. C'est tout simplement le même rôle qu'il avait l'année dernière. Je disais, c'est quand même... Sur les derniers matchs, c'est quand même lui, face au Real, c'est lui qui marque à l'aller, c'est lui qui marque au retour. Il faisait un peu tout l'année dernière. Ouais. Alors, c'est vrai que cette année...
Il est mieux aidé, on va dire.
Voilà, Neymar et Messi sont un peu mieux, notamment physiquement, et ils sont un peu plus concernés par les tâches à la fois offensives et défensives. Mais Mbappé, il a fait ce qu'il sait faire. Il marque assez vite, assez bien, et il a lancé son équipe. Alors voilà, c'est vrai qu'il aurait pu être plus altruiste, en tout cas rendre l'appareil à Neymar, parce que c'est vrai que sur l'ouverture du score, le geste du Brésilien est absolument incroyable. Il avait juste à lui remettre pour lui rendre la politesse. Ça aurait pu être la soirée parfaite.
Cédric, on parle aussi, évidemment, on a beaucoup regardé, c'est le milieu de terrain, et ce milieu de terrain avec notamment ce jeune Vitinha qui a fort peu d'expérience en Ligue des Champions, mais qui semble avoir déjà trouvé une belle connexion avec Verratti.
De toute façon, c'est pour ça qu'il a été recruté, Vitinha, c'est qu'il parle absolument, je le disais pendant la retransmission, mais le même football que Verratti. Il parle le même football aussi que les joueurs qui sont devant, c'est-à-dire Messi, Neymar et Mbappé. Il l'adore, hein, tous les trois, ça se voit. Il lui donne quand même assez souvent le ballon. il les décharge aussi. Il leur permet un peu de se concentrer sur d'autres choses. Vitinha, il a fait ce qu'il sait faire depuis le début de la saison et puis ce qu'il faisait aussi à l'époque au FC Porto. Hein. C'est pas non plus quelqu'un qui découvre le très haut niveau, mais c'est vrai que on l'attendait. Il a été plutôt bon sur ce début de saison en Ligue 1. Il a démontré qu'en Ligue des Champions, je vois pas comment là Christophe Galtier aujourd'hui peut le sortir du 11 titulaire.
Oui, on l'avait déjà vu déjà au Trophée des Champions. Hein. Il avait ébloui par son rôle et par son entente déjà. Patrick Juillard, vous aussi, vous êtes séduit par ce Vitinha. 22 ans, hein, 6 matchs de Ligue des Champions seulement.
Comment ne pas l'être ?
7e aujourd'hui.
C'est un vrai métronome. En plus, je trouve qu'il a aussi un petit côté, lui aussi, un petit peu teigneux. Il se cache pas et donc
et sans ça. Être violent.
Non, bien sûr, c'est mais ça décharge un peu Verratti du rôle de deuxième arbitre qu'il avait parfois un peu trop par le passé. Et d'ailleurs, les cartons sont mieux répartis entre les deux, je trouve, ce qui est pas inutile pour la
Vitinha
disponibilité des hommes.
Match.
Oui, voilà, mais Vitinha, c'est bien parce qu'il se cache pas. Il vient d'arriver dans l'équipe, mais il est déjà un peu un deuxième patron du milieu. Donc, sur ce qu'on voit depuis le début, c'est une très bonne recrue, oui.
Nabil ?
Non, mais pour l'instant, c'est validé, c'est intéressant, c'est actif, ça a du volume, ça a du maniement de technique. C'est un joueur aussi qui sait se replacer, couper les lignes de passe, également défensivement à la récupération. Il soulage en partie Verratti, mais moi, je demande à voir encore. Alors, je ne joue pas la fine bouche ici. Non pas face à une adversité plus forte, mais face à un milieu plus athlétique, plus puissant, comme on avait vu du côté de Monaco. Il n'avait pas été là. J'aurais bien aimé le voir face à Monaco, notamment à Camara et Fofana. À mon avis, quand vous les croisez, ces deux-là, vous faites une bonne sieste après. Donc c'est encore mon interrogation à son égard. Que ce soit un bon joueur de foot, il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'il joue juste, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai envie de le voir quand même face à une équipe plus intense et une équipe qui est moins en bloc bas ou intermédiaire comme la Juventus, une équipe qui va chercher plus haut. Ça sera intéressant aussi de le voir dans cette configuration-là.
Pour Fofana et Camara, il y en a même qui font la sieste pendant le match hein, quand ils jouent contre eux. Donc effectivement, méfiance.
Alors on a assisté aussi à une Juventus un peu en demi-teinte dans la première mi-temps. Ça allait mieux en deuxième mi-temps. Mais écoutons l'un des Français de cet effectif et c'est l'international Adrien Rabiot.
Le duc.
Ouais, le duc, l'ancien du PSG aussi, hein, qui retrouvait le Parc des Princes, évoquait la défaite des siens.
Déçu parce que effectivement les 20 premières minutes de la première mi-temps on a été trop timoré, on est resté trop dans notre camp, on a eu du mal à ressortir, on les a laissé jouer trop. Plus satisfait sur la seconde période parce qu'on a montré un autre visage, on a montré d'avoir du caractère aussi. Et on aurait pu revenir au score, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais vraiment ouais, deux mi-temps différentes, trop différentes, où il faut qu'on travaille aussi dessus parce que c'est pas normal. Donc il y a des regrets forcément. Mais c'est de bon augure pour la suite aussi sur ce qu'on a montré en deuxième période. Ouais.
De bon augure, effectivement. Cédric, deuxième période où effectivement les Turinois ont aussi, grâce à certains changements, retrouvé un peu d'animation.
Oui, je suis pas trop d'accord avec ce que dit Adrien Rabiot, mais oui, c'est vrai qu'avec Locatelli et McKennie, effectivement, il y a eu plus de densité. Ils ont plus à exister au milieu de terrain, mais j'ai été très déçu par la Juventus Turin. J'ai l'impression que c'est surtout le PSG en fait qui a remis la Juve dans le match. Alors, on parlait de ses erreurs défensives tout à l'heure. Il y a eu le loupé de Mbappé et Neymar. La Juve a fait ce qu'elle a pu et elle n'a pas été non plus très dangereuse, à part sur coup de pied arrêté, parce qu'effectivement elle a des grands gabarits, Milik. J'ai pas été transcendé, ça a été mieux parce que Paris a baissé de niveau en deuxième période.
Ça a été mieux déjà aussi parce que ça pouvait pas être pire, enfin difficilement.
Oui, c'est
après, la Juve, il y avait. Il manquait Di Maria.
Ça lui arrive.
Qui aurait pu mettre un peu de folie et d'imprévisibilité dans le jeu de cette équipe. Mais si on regarde le début de saison, la Juve est un petit peu à sa place. Elle est actuellement 7e de Serie A, ce qui est un classement, même si ça fait que 5 ou 6 journées, c'est un classement indigne du standing et des ambitions du club. Donc Elle est dans le dur, la Juve, là.
Nabil, elle est, alors, elle est dans le dur, ouais. Mais il y avait aussi beaucoup d'absents. C'est-à-dire que dans les buts, il manquait Szczęsny. Après, effectivement, il manquait Di Maria. Pogba, bon, n'en parlons pas, il a été à peine là. Il n'a pas commencé la saison.
Oui, Chiesa, c'est important. Ouais.
Ça fait beaucoup d'absents aussi. Et du coup, on a des Bianconeri bien vieillissants et bien un peu brillants, finalement.
Non, vous avez raison, on ne sent pas une puissance collective. Et parfois, vous savez, quand vous avez des grosses équipes, vous pouvez avoir 2-3 absents et vous ne voyez pas la différence parce que les remplaçants sont quasiment au niveau des titulaires. Je la trouve sans idée, sans identité de jeu. C'est le Paris Saint-Germain qui les a laissés vivants sur ce match-là. S'il y a 3-0, on ne discute même pas de la Juve. Alors, on sait que la vieille dame est éternelle, elle est de plus en plus mortelle dans le football actuel. C'est vrai que c'est insipide. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un conglomérat de joueurs sans ligne directrice. Ça manque d'identité. Quand je parle d'identité, je parle peut-être d'une ossature plus italienne, entre guillemets. Je pense que la Juve, historiquement, ça a été aussi souvent ça. Ça l'est, j'ai l'impression, un petit peu moins. Et puis, c'est une équipe qui, à mon sens, va devoir travailler dans cette poule. Parce que peut-être que l'adversaire du Paris Saint-Germain, c'est pas celui qu'on pense. Peut-être que l'adversaire du Paris Saint-Germain, c'est Benfica et pas la Juve.
La Juve avant c'était Fiat, maintenant c'est un peu plus Stellantis, c'est-à-dire une sorte de conglomérat mondialisé énorme. En forme énorme et
qui du coup n'a
qui
plus
donne pas grand-chose ensuite. Voilà.
Signalons-le hein, dans ce même groupe que justement le Benfica ce soir, eh bien l'a remporté sur le Maccabi Haïfa, sans doute l'équipe la plus faible, même si elle était la championne d'Israël la saison dernière, le Maccabi Haïfa contre lequel le PSG ira jouer la semaine prochaine et ils ont perdu donc ce club israélien sur le score de 2-0. En fin de partie, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, on a pu l'apercevoir ici, nous, du studio, Christophe Galtier s'est exprimé. Il s'est exprimé, évidemment, questionné sur le match. Mais vous allez l'entendre, et ça, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir en discuter tous les trois. Eh bien, il est revenu au micro de nos confrères de Canal+, sur la polémique qui est née depuis 24 heures sur les réseaux sociaux et qui le mettait en cause pour une plaisanterie qui était tombé un peu à plat, à savoir est-ce que vous n'auriez peut-être pas dû prendre le TGV au lieu d'un jet privé pour aller jusqu'à Nantes. Il en avait donc ironisé la question en disant bah non, il fallait notre désormais nous irons en char à voile. Bref, d'ailleurs devant le Parc des Princes, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, Cédric de Oliveira, mais
manifestation de Greenpeace. Oui.
Voilà, Greenpeace, l'ONG.
Très beau char à voile d'ailleurs.
L'ONG qui défend le climat depuis si longtemps et la nature eh bien, avait installé devant le Parc des Princes un char à voile et mis un carton rouge au Paris Saint-Germain. Eh bien, nous allons entendre la réponse de Christophe Galtier. Christophe Galtier qui s'est excusé.
Ce sont des propos, je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat, problèmes de notre planète. Je sais la responsabilité que nous avons. J'ai entendu beaucoup dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. On est très lucide simplement. Évidemment que c'était pas à ce moment-là que cette blague, elle arrive au mauvais moment. Elle est de mauvais goût. Je le regrette. Mais de là à en faire une polémique, à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, j'ai des joueurs qui font très attention au climat. On leur reproche beaucoup de choses. J'ai des joueurs sérieux. On est un club, on fait attention. On s'est déplacé à Lille. On a fait 2h45 de bus dans la journée. Au retour, 2h45 de bus pour faire le retour. On est conscient des enjeux qu'il y a sur le plan climatique. Évidemment, je finis par ça, je le regrette. Mais quand même, je crois qu'en France, l'humour a du mal à... C'est plus possible de faire de l'humour, même si ma blague, elle n'était pas top et je l'ai su rapidement rentrer à la maison.
Alors voilà, Amando Dorac.
Il a quand même fait de l'humour encore à la fin.
Oui,
donc ça va, on est rassuré, on espère en tout cas qu'il ne perdra pas son sens du monde. Moi, je suis d'accord avec lui.
Souvient, Nabil, d'un président de la République qui avait essayé de faire de l'humour fut un temps et qui avait très vite compris que malheureusement, venant de ces personnes, et c'est pas toujours perçu de la même manière, une phrase d'humour, c'est subjectif et du coup, ça avait été mal perçu. En tout cas, là, effectivement, il utilise un petit peu l'humour, mais il a tout de suite éteint l'incendie.
Il a fait ce qu'il fallait. Bon, moi, c'est ce que je pensais de toute façon globalement. Moi, je suis d'accord sur le fond, le timing était douteux, la blague est déplacée, mais que ça prenne ces proportions-là,
on était
ça
tous
me
d'accord.
paraissait comme complètement hallucinant. Alors, on peut, si c'est pas quelque chose qui est dans la culpabilisation, moi, ça me pose pas de souci d'en débattre, mais, ni stigmatisant pour soi-disant des gens qui seraient très riches et qui n'auraient rien à cirer des autres. Je suis pas sûr que ça soit le cas. En tout cas, moi, personnellement, je parle des fois avec des footballeurs, j'ai pas l'impression qu'ils sont tous déconnectés de la réalité. Et au contraire, par leurs origines, parfois sociales, sont beaucoup plus alertes de ce qui peut se passer qu'autre chose. Après, oui, c'est un sujet important, c'est un sujet où il faut une prise de conscience, mais de là à faire porter le chapeau à un entraîneur de football et à un joueur qui voilà, a eu un comportement un peu déplacé, moi, ça me paraît être une hystérie qui n'a pas de sens. Et que quand je vois qu'il y a une instrumentalisation de la part de certains politiques, entre guillemets,
voilà, c'est ça.
Ça me dérange.
C'est gênant.
Voilà.
Non, mais moi, je pense qu'il a parfaitement répondu. Franchement, il a fait amende honorable. Il a dit j'ai fait une blague douteuse, c'est très bien. Il n'aurait pas dû la faire, il le sait. Je pense qu'il s'est laissé griser hier pour être à la conférence de presse. Je l'avais dit tout à l'heure dans la précédente émission, mais il s'est laissé griser un peu parce qu'il sent bien que les journalistes sont contents, parce qu'il donne des petites phrases, des bons mots et tout ça. Là, il s'excuse et il dit effectivement nous, ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté. Je trouve, voilà, ça va peut-être au moins permettre de faire éteindre la polémique et de se concentrer sur le fond du problème, qui est effectivement peut-être que les footballeurs et les clubs de foot doivent maintenant se concentrer sur ces questions-là un peu plus, ou en tout cas communiquer davantage et prendre de vraies décisions, mais plutôt que se concentrer sur des petites phrases.
Et peut-être sous l'impulsion d'ailleurs de la Ligue de football professionnel, comme ça l'est dans d'autres pays, notamment Matteo Cioffi nous l'avait dit en Italie. Mais je voulais savoir, Cédric de Oliveira, justement, vous qui avez aperçu ce char avant voile et qui avait vu un peu cette manifestation de Greenpeace. On en parlait au Parc des Princes. Vous avez eu la sensation que ça faisait débat aussi au stade ?
Non, je l'ai croisé quelques supporters et je leur ai effectivement un petit peu posé la question, discuté avec eux, mais le sentiment général de ce que j'ai perçu, c'est tout le monde est assez d'accord en fait sur il a un peu fait une blague un petit peu mauvaise. Je pense que en France, tout le monde a vécu un peu le même été, a vu ce que les conséquences du réchauffement climatique faisaient. Effectivement, je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Il y a un consensus assez global et je pense que ça n'exclut pas les footballeurs. Et je suis assez d'accord avec Nabil. Les footballeurs me paraissent pas complètement déconnectés. On va essayer de leur poser la question tout à l'heure à ceux qu'on va croiser en zone mixte, mais je pense que ce sera sensiblement la même teneur. Et voilà, concentre-nous sur le fond du problème plutôt que sur des petites phrases qui parfois sortent un petit peu.
Qui étaient malheureuses, effectivement. Voilà, c'est plutôt tout ce qui s'est passé autour qui nous a
pollué, voilà. Vous pouvez le dire. Oui.
Non, mais
c'est ça.
Qui nous a pollué. Et puis peut-être que venant de l'entraîneur, il a certainement clos le débat et je pense que tout
c'est
à l'heure.
C'est ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs hier pendant la conférence. C'est-à-dire il aurait pu faire sa vanne et ensuite juste après dire non plus sérieusement et puis donner quelques explications.
Il avait dit plus sérieusement avant, c'était un peu
oui
gênant.
Mais c'est ça, mais il l'avait dit ironiquement,
bien sûr.
Après, là il aurait dû le dire sérieusement et ça il n'y aurait pas eu de polémique,
mais voilà. Mais,
Patrick, ce qui est gênant, c'est que
et puis surtout il découvre que maintenant être entraîneur du PSG, c'est pas entraîneur de Nice, c'est que forcément
c'est gênant. Ça dépend quelle société on veut, parce que si on peut plus faire humour entre guillemets, bon bah voilà. Ça va être lisse et puis terminé, quoi.
Ce qui est difficile aussi, c'est que il faut pas non plus qu'on laisse penser que c'est une série de mesures individuelles qui vont pouvoir régler un problème mondial.
Ouais. Oui, mais c'est facile, c'est toujours pas, et c'est facile de taper sur les fouteux et voilà.
Oui,
c'est pas
voilà,
eux qui vont régler le problème.
Chacun faisant sa part, peut-être que ça peut aider aussi.
Ça peut aider, mais ça ne suffira
aussi...
pas. Et
ça
surtout que
pas,
le monde
aider.
Entier, c'est pas juste l'Europe ou la France, c'est la Chine, c'est l'Inde. Et je suis pas certain que là-bas, la perception des choses et la longueur d'onde soient la même. Mais bon. Je me trompe peut-être.
En tout cas,
c'est un autre débat, Patrick.
La thématique du réchauffement climatique en instrumentalisant des footballeurs.
C'est pas dans Radio Foot International. Là, il faudra aller voir d'autres émissions sur notre chaîne. On va vous libérer, Cédric de Oliveira. Je crois qu'il y a toujours de la musique. Hein. Vous pouvez peut-être finir en dansant.
Oui, mais voilà, exactement. On n'est pas malheureux ici, hein, vous savez. On peut rester. Hein. On va surtout aller voir les joueurs et les entraîneurs pour essayer de savoir,
est-ce que,
recueillir quelques impressions.
Est-ce que le char à voile vous ramène à RFI tout à l'heure ?
Ah, ce ne sera pas en char à voile, mais on va trouver une solution.
Il n'y a pas assez de vent aujourd'hui, Yann.
Je vous dirai demain comment je m'en sortirai.
Merci beaucoup, en tout cas, Cédric, d'avoir été en direct si longuement avec nous. Et bonne fin de soirée dans le Parc des Princes. On continue, nous, chers camarades, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres matchs ce soir. Et on va évoquer quand même les champions d'Europe, ceux qui, en mai dernier, avaient levé leur 14e coupe. Évidemment, ce sont les joueurs du Real Madrid, les Merengues, qui commencent par une victoire, une nette victoire 3-0, oui, avec des buts signés Vinicius, Modric et Eden Hazard, oui. Nabil.
Alors, ce n'est pas un score qui reflète totalement la réalité du match, parce que cette équipe du Celtic, elle a été enthousiasmante. Elle s'est procurée des situations franches, notamment à 0-0 avec un poteau incroyable qui a sauvé Courtois. Et puis ensuite, bon, bah, évidemment, on va dire la supériorité technique du Real a fait la différence. Avec Benzema qui est sorti en cours de match, rappelons-le, pour blessure, il faudra surveiller la situation à quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Il est sorti en boitant, ça semble être une blessure au niveau du genou. Et puis, bah oui, vous avez raison, Eden Hazard qui est rentré à sa place, bah, qui retrouve un peu le sourire avec un but important pour son moral. Et puis celui qui avait quand même ouvert la voie et qui est plus qu'un lieutenant aujourd'hui au Real derrière Benzema, c'est le Brésilien Vinicius qui, suite à une contre-attaque, a ouvert la marque et soulagé ses coéquipiers. Donc bon, un démarrage tranquille pour le Real du côté du Celtic, où je vous le dis, je connais pas le reste du groupe parce que je m'en souviens pas, Annie, vous allez peut-être nous le dire, je suis pas sûr que tout le monde va venir gagner à Glasgow.
Je dirais que cette victoire, c'est un char
avec
à voile.
Le Shakhtar et Leipzig, si
oui,
je me trompe.
Je vous annonce que tout le monde ne gagnera pas là-bas.
C'est un char à voile qui arrive à l'heure, cette victoire. Non, mais c'est attendu. Le Celtic a offert une belle résistance, puis le talent a pris le dessus. Et il faut souligner aussi l'extérieur de Modric sur le deuxième but, qu'il faut aller revoir, si on peut le revoir sur les réseaux
divers. Et saluons ce grand champion, Ballon d'Or en 2018.
Sublime
quel
but.
Joueur.
Et surtout, 37 ans aujourd'hui, 100e match de Ligue des Champions.
Et pas le dernier.
Mm-hmm. Ouais. Non, sans doute pas.
Série en cours.
Ouais. Je ne comprends pas pourquoi il n'est jamais cité parmi les légendes du Real. Parce que, vous savez, on a débat avec Benzema ces derniers temps, est-ce que c'est une légende du Real ? Mais moi, pour moi, avec Ramos, sur les 10 dernières années, c'est le joueur le plus important du Real.
Il y avait aussi les premiers pas, finalement, à la place de celui qui n'était plus là.
Casemiro, vous
voulez
dire. Tchouaméni. Bah, ça a l'air de bien se passer. Pour l'instant, l'altitude n'est pas encore très élevée. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Il est déjà décisif. Il s'illustre par des décalages. Enfin, il s'affirme. On va voir, plutôt au printemps, et on va voir aussi comment il va vivre sa Coupe du Monde. Il est peut-être amené à jouer un rôle plus important que prévu en raison de la blessure de Pogba. Donc tout ça peut soit lui mettre de la pression, soit accélérer sa maturité. Donc les mois qui viennent vont être intéressants à suivre pour lui, je pense.
Et Kamavinga aussi est apparu en cours de match. Ancelotti l'a fait rentrer. On peut saluer nos jeunes joueurs de football dans le nord du Cameroun qui se sont baptisés du nom
les Kamavinga,
et qu'on avait vu dans le Café des Sports en fin de semaine dernière. Une des surprises, une mauvaise surprise, alors par contre, ça va être la défaite de Chelsea.
Ah oui, terrible.
Patrick Juillard, la défaite de Chelsea chez le champion de Croatie. Alors, c'est le champion,
effectivement. Une équipe sortie des barrages.
Dynamo de Zagreb.
Qui avait déjà battu Tottenham il y a une ou deux saisons en Europa League avec une belle raclée du côté de Zagreb.
Donc, alors là,
un but superbe.
C'est sur 1-0, mais c'est vrai que quand on voit les investissements faits consenti par le nouveau propriétaire de Chelsea à Thomas Tuchel, 300 millions d'investissements d'euros avec Sterling, Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang.
Et Cucurella à gauche aussi.
Cucurella, très cher.
Bon, bref, ils ont acheté beaucoup de joueurs.
Une demi-équipe, quoi.
Et les Blues, pour l'instant,
ils ont le Blues. Ouais, et le but est splendide. C'est une contre-attaque en trois touches de
fulgurante.
Balle. Une passe, une déviation. On lance Orsic.
Face à Fofana.
Un joueur un peu méconnu, mais très subtil. Et là, il arrive à semer Fofana, à faire une pichenette qui trompe Kepa, c'est magnifique, c'est une contre-attaque d'école, comme on dit. Joueur qui a déjà presque 30 ans, mais souvent les joueurs d'ex-Yougoslavie, enfin croates ou serbes, sortent assez tard et peuvent encore
briller
dans des grands championnats, même à la trentaine. Donc, à suivre.
Dans ce groupe, le RB Leipzig Nabil,
bah oui, après
battu chez lui et très sévèrement sur le score de 4-1 par le Shakhtar Donetsk.
C'est étonnant.
Alors que Donetsk, le Shakhtar en tout cas, on connaît les difficultés d'un club ukrainien à l'heure actuelle.
Alors j'imagine qu'il y a un supplément d'âme du côté du Shakhtar Donetsk, mais à ce point-là quand même, l'écart est surprenant parce qu'une équipe comme Leipzig, c'est une équipe qui maintenant fait partie du Gotha européen.
C'est des habitués.
Ouais, comme le Shakhtar d'ailleurs, hein, qui fait régulièrement huitième de finale. Qu'ils puissent les regarder dans les yeux, les battre d'un but d'écart à l'extérieur, je veux bien le comprendre. Mais là, il faudra voir quand même dans les détails ce qui s'est passé du côté de Leipzig, alors, qui a dû ouvrir le jeu à un point.
C'est le problème. Ouais. C'est que c'est une équipe qui est souvent très agréable à voir, qui sort des beaux joueurs, enfin qui a un projet de jeu enthousiasmant, mais défensivement, c'est pas à la hauteur.
Et qui se fait prendre.
Je pense que le recrutement de ces clubs, c'est la filière de Red Bull. C'est-à-dire, ça part de Salzbourg et les joueurs montent à Leipzig pour ensuite être vendus à des très, très grands clubs type Liverpool, City et autres. C'est les recrutements les plus rentables, c'est plutôt les joueurs offensifs. Un défenseur ne rapportera jamais, ou alors c'est rare, autant qu'un joueur offensif. Donc les postes défensifs sont un peu les parents pauvres de ces équipes et on le voit sur des matchs comme celui-là.
Vous citiez Salzbourg, et bien Salzbourg a fait match nul face au Milan AC après avoir ouvert le score.
Ouais, une
et
belle
finalement,
affiche. Ouais, un groupe qui va être aussi très intéressant, avec Salzbourg qu'on a vu déjà la saison dernière faire des choses intéressantes et qui avait été éliminé par le Bayern, qui avait été surclassé par le Bayern. Ils ont perdu Adeyemi, mais c'est une équipe qui a de la ressource et qui a un logiciel de jeu proche de celui de Leipzig. Et en face, le Milan AC qui a un petit peu fait tourner, donc c'est Selmaker, je crois, qui a marqué le Belge. Mais ça serait aussi une équipe un peu une curiosité, le Milan AC, la saison dernière, c'était tombé dans une poule difficile avec le Liverpool, Porto et l'Atlético Madrid. Ils avaient fait des matchs spectaculaires, mais la pièce était retombée du mauvais côté. Donc j'ai hâte de les voir quand même sur cette Ligue des Champions. Et puis hâte aussi de voir un garçon, on parle beaucoup de Haaland, de Mbappé, mais Leao, c'est quelque chose d'exceptionnel en ce moment.
Alors il y a eu aussi un autre club allemand qui avait joué, c'est Dortmund, 3-0 face au FC Copenhague.
Le FC Copenhague, équipe sans doute destinée à distribuer des points aux autres sans être désobligeant, mais c'est une équipe qui est passée par
les préliminaires.
Un trou de souris pour se qualifier, qui a recruté un peu tardivement, mais donc Cornelius, l'attaquant qui avait joué un si vilain tour au Bleu en juin dernier,
c'est vrai.
Ancien de Bordeaux, mais ça reste quand même un effectif un peu juste, à mon avis, pour prétendre à une qualification pour le tour suivant.
Et puis alors on a Séville battue chez eux. Alors là, une correction, on peut dire.
0-4.
C'était très sévère. On a vu des images de Lopetegui furieux contre ses joueurs et sa défense. Mais ils se sont pris un 4-0 de Manchester City et un doublé, Nabil Djellit. Alors on parle du doublé de Kylian Mbappé. Et sans doute, avant, on a si souvent parlé de Messi de Messi et Ronaldo. Mais maintenant, il va falloir qu'on parle de Mbappé et de Haaland. Doublé de Haaland.
J'ai regardé les images, il s'est goinfré dans la surface. Il reçoit des cadeaux et des bonbons de partout, que ce soit Foden, que ce soit De Bruyne. Sur une des situations, c'est De Bruyne qui le trouve dans la surface, il se jette, il coupe la trajectoire. Sur une autre situation, il est dans la surface, il est dans la boîte. Sur une frappe de Foden, le gardien repousse, il est là pour pousser le ballon. Il pèse, il est. Vous avez entendu ce qui a été dit dans la presse anglaise à propos de Haaland? Apparemment, il y aurait certains coachs d'équipes anglaises qui seraient appelés de Première Ligue pour essayer de trouver une manière de l'arrêter en disant ce qui vient d'arriver, c'est du jamais vu, on n'avait jamais vu un truc pareil. Personne n'arrive à trouver, parce qu'il part sur des bases absolument stratosphériques. Rappelons que le record de buts en une saison en Première Ligue, il appartient à un Africain, c'est Mohamed Salah avec 32 buts. Je vous annonce dans le plus grand calme que ce record va sauter.
On l'a déjà annoncé.
Ouais. Vous l'avez déjà annoncé.
Reste à savoir quand.
On imagine.
Non, mais
je me demande s'il ne va pas atteindre les 40 buts, moi.
Bah oui.
Le FC Séville, en plus, qui connaît un début de championnat très difficile. 4 matchs, toujours pas de victoire, 3 buts marqués. Équipe vraiment dans le dur que je suis d'assez près. Parce que je suis les performances du gardien Yacine Bounou, du gardien de l'équipe nationale du Maroc. Mais il est souvent abandonné. Enfin, c'est une équipe qui a un début de saison très laborieux et c'était pas, à mon avis, c'était pas le bon adversaire pour reprendre confiance ce soir.
Alors, il y a eu aussi un but du petit Phil Foden, la petite merveille qui a marqué. Et puis Diaz, Ruben Diaz.
Ruben Diaz sur un dédoublement avec justement.
Qui a inscrit un but.
Cancelo.
Voilà pour ce qui est de cette soirée. On y reviendra dans Radio Foot International demain. Mais pour l'heure, eh bien, on va se diriger du côté de l'Angleterre. Nous attend notre envoyé spécial, Thomas de Saint-Léger. Alors pourquoi allons-nous du côté de Londres ? Eh bien parce que demain, ça sera l'heure du grand retour de l'Olympique Marseille en Ligue des Champions après deux années d'absence. Cette équipe qui a terminé l'année dernière dauphin du Paris Saint-Germain et qui se retrouve donc en Ligue des Champions avec son entraîneur Igor Tudor et qui va jouer contre Tottenham. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Annie et bonsoir tout le monde.
Alors Thomas, vous êtes dans la capitale anglaise, on frémit là-bas aussi pour la Ligue des Champions.
Ah bah, comme d'habitude, de toute façon, il y a chaque année plusieurs clubs londoniens qui jouent cette compétition. On ne frémit pas vraiment à l'idée de recevoir Marseille. Hein. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Annie, c'est pas l'affiche qui fait le plus rêver ici à Londres. Mais si on se place du côté marseillais, évidemment, vous le rappeliez, c'est un retour pour l'OM en Ligue des Champions après une année d'absence, enfin deux années. La dernière campagne date d'il y a deux ans. Elle avait été catastrophique, celle d'avant. Encore plus un OM qui surtout veut montrer que à jamais les premiers, c'est le slogan du club, premier club français à gagner la Ligue des Champions, mais souvent le dernier de son groupe dernièrement. Et donc cet OM qui veut montrer qu'en Ligue des Champions, il est capable de faire honneur un petit peu plus à sa réputation que les dernières campagnes le laissent penser.
On va écouter d'ailleurs le capitaine de cette équipe de Marseille, qui là était en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, qui peu à peu le fait jouer un peu plus. Il s'agit de Dimitri Payet. Dimitri Payet qui évoque justement le retour de Marseille dans cette compétition.
Avec le début de saison qu'on a fait, et oui, on est prêt à entrer dans cette compétition. Après, voilà, je pense que tout le monde est excité à l'idée de jouer certains pour la première fois. Mais il va falloir faire preuve aussi, voilà, de beaucoup d'exigences, de sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que finir derrière Tottenham et Francfort qui a gagné l'Europa League, c'est du costaud. Le Sporting joue quasiment voilà, Ligue des Champions depuis pas mal d'années. On est dans le chapeau 4, faut pas l'oublier. Après, bien évidemment qu'on a envie de passer ce cap et d'aller jouer les huitièmes de finale. Mais si on peut pas aller jouer les huitièmes de finale, bien évidemment que la troisième place est le plan B, on va dire. Parce que quatrième, ça vous enlève tout espoir de Coupe d'Europe.
Thomas de Saint-Léger, excès de réalisme de la part de Dimitri Payet à la veille de rencontrer sans doute le poids lourd de ce groupe qui est Tottenham.
Je sais pas, parce que, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il prépare le terrain un petit peu.
N'est-ce
là. Troisième, c'est un plan B, c'est pas grave. Non, mais Marseille, cette année, a un vrai coup à jouer. On l'a dit, le groupe est beaucoup plus ouvert que les années précédentes. On se rappelle de la déculottée, le zéro pointé en 2013-2014. Mais c'était un groupe terrible avec Arsenal, le Borussia, oui. Naples. Il y a deux ans, c'était aussi du costaud avec Chelsea et Porto et l'Olympiakos, vous le disiez. Voilà, cette année, il y a quand même une carte à jouer. Voilà, on a pris cet extrait évidemment dans lequel Dimitri Payet semble dire que il y a d'autres gros poissons dans ce groupe, que c'est pas gagné, qu'une troisième place serait pas si dramatique. À d'autres moments de cette conférence de presse, il s'est montré un petit peu plus ambitieux quand même, le capitaine marseillais. Il a aussi rappelé, et c'est là le changement peut-être par rapport aux précédentes campagnes, que cette année cet OM a un effectif, un groupe un peu plus expérimenté dans les compétitions européennes, avec des joueurs avec du vécu qui sont arrivés, Eric Bailly, Chancel Bemba, Alexis Sanchez surtout, même si le Chilien demain sera suspendu. En tout cas, il y a plus de vécu, voilà, dans ce groupe marseillais à l'échelle européenne. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent des visages plus jeunes que l'OM avait montré dans le passé.
En plus, Nabil Djellit, Dimitri Payet a assuré qu'il était à 100% physiquement. Il a loupé le dernier match de championnat.
Oui, après j'ai des doutes sur le voir être aligné d'entrée dans un match où il va y avoir beaucoup d'intensité. C'est aussi la recette de Tottenham. De Tottenham aussi. C'est une équipe qui est également difficile à jouer dans cet aspect-là. En fait, c'est un peu, c'est pas que c'est un copier-coller, mais Conte, c'est quand même l'école de la Serie A en partie. Tudor également. C'est des équipes qui jouent avec beaucoup de verticalité.
Avec trois défenseurs.
Exactement, avec beaucoup de verticalité. Donc, des temps de possession, des attaques placées, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Je ne suis pas sûr que ça corresponde au registre de Dimitri Payet qui n'est pas à 100%, malgré ce qu'il nous raconte. Mmh. À mon avis, il va mettre de la jeunesse, il va mettre certainement Gerson, Luis Suarez, le Colombien, et peut-être Guendouzi également, qu'il a transformé en troisième attaquant, avec un rôle hybride, et surtout Guendouzi qui lui a du volume. Alors Payet rentre en cours de match, ça je veux bien le croire.
Patrick Juillard.
Bah, je pense que l'OM se dit on a un groupe abordable, mais le problème c'est que l'OM reste sur deux campagnes avec 3 points sur 36 possibles, et que lors de la dernière participation, l'OM avait joué le FC Porto, l'Olympiakos et Manchester City. Logiquement, l'OM s'était incliné 2 fois contre Manchester City. Ça, c'est normal. C'était sans doute pas inscrit sur le tableau de marche qu'il puisse prendre un point ou plus contre City. Mais c'était contre Porto et l'Olympiakos que l'OM avait été déficient. Oui. Donc là, demain, c'est peut-être un match joker. Mais ce serait bien d'essayer cette fois de faire turbuler un peu la hiérarchie. D'essayer de faire douter Tottenham le plus longtemps possible pour se mettre en confiance. Tottenham, c'est une équipe très rugueuse, très dure à manier, mais qui ne marque pas énormément en Première Ligue, qui encaisse peu aussi. Donc l'OM devra être très costaud, être vraiment intense, mais ça me paraît compliqué. Moi, je les attends plus sur les matchs contre
Sporting et Francfort.
Voilà, c'est là que, pour moi, on va voir le niveau d'ambition possible de cet OM dans la compétition.
Thomas Saint-Léger, vous serez à Londres et ça sera dans ce nouveau White Hart Lane de Tottenham. Hein.
C'est ça, dans le Tottenham Hotspur Stadium, il a été débaptisé, en tout cas, il ne s'appelle plus White Hart Lane.
Ce stade, il est assez.
Il a été reconstruit sur les ruines de White Hart Lane, ceci dit. Et c'est vrai que ce stade, alors on n'a pas pu voir la pelouse parce que les Marseillais se sont entraînés à Marseille ce matin. Ils ont rejoint l'Angleterre pour cette conférence de presse assez tard dans l'après-midi. On n'a pas pu donc voir la pelouse de ce stade et l'impression générale qu'il dégage. Moi, j'y suis jamais allé, en tout cas personnellement. Mais c'est vrai que déjà de l'extérieur, il est assez impressionnant. Stade très moderne. Payet nous parlait d'un mur à la Dortmund, un petit peu comme le mur jaune de Dortmund. Il comparait ça au stade allemand, Dimitri Payet, qui, juste pour revenir sur son cas personnel, là, je vous entendais en discuter tout à l'heure, je penche plutôt aussi pour une non-titularisation de Dimitri Payet demain. Il a tenté pendant toute la conférence de presse, je le connais pas bien, mais c'est l'impression que ça m'a donné, de faire passer des messages à son entraîneur. Je suis disponible, je suis à la disposition de l'entraîneur. Il l'a répété 2-3 fois. En général, quand un joueur fait ça, c'est qu'il n'est pas dans les petits papiers du lendemain. Ouais.
Oui. Et on a senti de toute façon en ce début de saison qu'il n'y était pas, puisqu'il a été une fois, je crois, titulaire sur tous
les
matchs.
Il paye un peu des choix tactiques par rapport à la nouvelle philosophie de jeu de l'Olympique de Marseille. Un état de forme qui aurait été également douteux à la reprise. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Après, si vous vous dites que c'est le match le plus difficile et que vous n'avez rien à perdre, vous pouvez le faire jouer également. Hein.
Dimitri Payet qui retrouve Londres, notamment aussi Thomas Saint-Léger, parce qu'il avait passé un an et demi à West Ham.
À West Ham, où il a laissé de bons souvenirs, même s'il était parti un petit peu en claquant la porte. Hein. Et d'ailleurs, claqué la porte, c'est peut-être un petit peu fort.
Ça s'est mal terminé, je peux vous le confirmer. J'ai quelques anecdotes croustillantes que je préfère pas raconter à l'antenne.
Bon, on se les raconte dans les couloirs au retour, Nabil, il n'y a pas
plaisir.
De problème. En tout cas, c'est vrai qu'il a parlé de cette expérience. Il a dit qu'il en avait gardé d'excellents souvenirs, de ses ambiances, notamment. Il s'attend à retrouver l'intensité, évidemment, de la Première Ligue. Mais il a expliqué aussi que ce choix marseillais, il ne le regrettait pas du tout aujourd'hui.
Oui, c'était un choix familial notamment. Et puis on y reviendra demain en présentant l'avant-match. Il y a Hugo Lloris qui fête lui ses 10 ans dans les cages du club de Tottenham qu'il a rejoint, ça fait une dizaine d'années. Merci beaucoup Thomas Saint-Léger, bonne soirée, good night du côté de Londres.
Good night, bonne soirée.
et à demain dans Radio Foot International. Merci beaucoup messieurs,
merci
Patrick
vous.
Juillard et Nabil Djellit.
Merci.
d'avoir été en direct avec nous ce soir. David Finzel donc était là bien présent avec Laurent Salerno, et on vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence.